Et je vais inviter David Bouvarel à venir également me retrouver. Donc vous êtes doctorant et vous allez nous parler de la mémoire épisodique et comment compenser les pertes de mémoire, un sujet qui est en lien justement avec votre thèse sur laquelle vous travaillez là déjà depuis un an et demi, avec Linkia donc, et également le laboratoire de psychologie et de neurocognition de Grenoble, ainsi que le CHU de Saint-Étienne.
C'est ça, bonjour.
Je vous laisse la parole, bonjour.
Effectivement, moi je suis doctorant en neuropsychologie et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est passionnant, la mémoire. La mémoire, on y fait souvent référence quand on parle des souvenirs. Par exemple, voilà, je me souviens avoir écrit cette présentation, puis je me souviens aussi l'avoir apprise pour vous la présenter là aujourd'hui. Petit détail qu'on nommait souvent, c'est qu'en fait, les souvenirs, ça n'existe pas. En fait, on n'a pas dans notre cerveau, dans notre tête, on n'a pas de boîte à l'intérieur de laquelle on peut ranger des souvenirs. On ne peut pas comme ça prendre la boîte, la secouer et puis faire jaillir quelque chose. Ça n'existe pas. Pendant longtemps, on a cru que c'était comme ça. Le siècle dernier, on pensait que c'était comme ça que ça se passait. En fait, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y en a encore qui pensent que c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, en réalité, c'est que nos souvenirs ils sont fragmentés, éclatés un peu partout sur l'ensemble du cerveau et l'ensemble du corps. Et en fait, on a des bouts un peu partout qui sont dispersés ça et là, et notre cerveau doit faire un effort de reconstruction pour que notre souvenir existe et qu'au présent, on puisse avoir la mémoire de notre passé. Donc ça veut dire que quand on prend une boîte dans notre tête et qu'on secoue, il ne se passe rien en fait. Si vous devez retenir une seule chose de cette présentation, du coup, c'est que ce souvenir, en fait, c'est reconstruire. Alors j'ai récemment pris conscience de ça il y a quelques temps, et je vais vous parler un peu de ma vie pour que vous compreniez. Quand j'étais petit, j'allais chez ma grand-mère, et ma grand-mère, elle faisait un plat, c'était avec du poisson, et avec le poisson, il y avait une sauce, c'était une sauce à la ciboulette, c'était vraiment très bon. Et évidemment, une fois qu'on est adulte, on a envie de se replonger dans ses souvenirs d'enfance, et donc on essaye de cuisiner le plat de notre grand-mère, et puis on essaye, on n'y arrive jamais. Sauf qu'il y a un jour où j'ai un peu réussi, et là, d'un coup, j'ai été projeté 10 ans en arrière, ça c'est moi il y a 10 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Je me suis revu assis à la table dans le salon de ma grand-mère. Et puis, j'ai vu le plat sous mes yeux. Et puis, j'ai entendu la télé qui était en fond, probablement Jean-Luc Reichmann. Et puis, j'ai entendu aussi le chien. J'ai senti aussi le chien. Et puis, en fait, dans ce salon, il y avait un placard. À l'intérieur de ce placard, il y avait une montre à gousset. Cette montre à gousset, mon grand-père, il avait dit qu'il me la donnerait. Mais en fait, il avait dit la même chose à mon cousin. Et tout ça, ça s'est mis bout à bout juste parce que j'ai mangé une sauce qui ressemblait à une sauce à la ciboulette que ma grand-mère faisait il y a 10 ans. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que tout s'est reconstruit au moment présent sur la base de mon passé. Ça, c'est un premier élément qu'il faudrait retenir. Un deuxième élément à retenir, c'est que notre cerveau, il est biologiquement fabriqué pour faire des liens. Tout au long de notre vie, on fait des liens. C'est le fonctionnement du cerveau, c'est aussi le fonctionnement du corps. En fait, dans notre cerveau, on a des neurones, et ces neurones, il y en a dans le cerveau, et puis il y en a dans le corps, il y en a jusqu'à l'index de notre main, et puis même jusqu'à nos orteils. C'est des neurones parce qu'en fait, c'est des nerfs, et à l'intérieur des nerfs, il y a des neurones. Et ce qui se passe, c'est que quand on interagit avec le monde, on n'a pas simplement des interactions neutres et vides, abstraites. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on va entendre des choses, on va voir des choses, on va sentir des choses, on va aussi ressentir des choses. Puis on peut toucher, goûter, tout ça, on va interagir avec le monde et on va percevoir le monde à travers différentes modalités sensorielles. Et ces différentes modalités sensorielles, elles vont donc être associées les unes avec les autres par le travail associatif du cerveau et du corps. Alors deux choses à retenir finalement. La première chose, c'est que nos souvenirs, ils sont reconstruits. La deuxième chose, c'est que nos souvenirs, ils sont multimodaux. Alors donc moi je vous ai dit, je suis doctorant en neuropsychologie et quand on est doctorant, on fait de la recherche et quand on fait de la recherche, on essaye de comprendre comment fonctionnent les choses et moi les choses qui m'intéressent c'est l'être humain. Et pour comprendre l'être humain, ce qu'on fait en général en science c'est des croquis. Alors nous on n'appelle pas ça des croquis, on appelle ça des modèles, mais c'est un peu la même chose, c'est des rectangles avec des traits et des flèches qui expliquent comment ça se passe à l'intérieur du cerveau. Et l'un des modèles que moi j'utilise, qui est intéressant parce qu'il explique bien comment se passent les souvenirs à l'intérieur de notre cerveau, c'est le modèle Actine. Et en fait, c'est un modèle qui s'inscrit dans un ensemble théorique qu'on appelle l'ensemble de théorique des modèles multitraces. Vous allez probablement comprendre un peu plus tard pourquoi j'appelle ça des modèles multitraces. Ce n'est pas moi qui appelle ça, c'est le monde scientifique. Il y a deux parties dans ce modèle Actin. La première partie, c'est Act, pour Activation, et puis la deuxième partie, c'est Integration, donc c'est le IN. Je vous prie de passer mon accent anglais. Alors en fait, je vous ai expliqué comment ça se passait quand on se souvenait au moment présent, mais il faut maintenant que je vous explique comment ça se passe au moment où on fabrique notre souvenir la première fois. Reconstruire, c'est facile, mais construire, c'est un peu différent. Donc ce qui se passe, c'est que quand on va interagir avec le monde, on va percevoir différents éléments, différentes modalités sensorielles. Et pour traiter le monde, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a des neurones qui s'échangent de l'information. Les neurones, ils font ça de façon très évidente. Ils envoient de l'information, c'est un peu comme des billes. Alors nous, on appelle ça des neurotransmetteurs, mais ça veut dire la même chose. La dopamine, par exemple, c'est un neurotransmetteur. La sérotonine, c'est aussi un neurotransmetteur. Et chaque fois que des neurones s'échangent de l'information, donc ils se font passer des sacs de billes, eh ben, ça nous donne des informations sur le monde avec lequel on est en train d'interagir. Alors bon, quand ça se passe bien, le cerveau il enregistre que le neurone A il a envoyé de l'information au neurone B. La façon dont il a envoyé l'information, elle a été efficace. L'information est bien passée d'un endroit à un autre. Et on a pu percevoir et traiter le monde pour interagir de façon pertinente avec le monde. Dans notre cerveau, évidemment, on n'a pas qu'un seul neurone, on en a des milliards. Donc en fait, c'est des milliards de neurones qui interagissent avec d'autres milliards de neurones. Et on entre donc dans un état d'activation. À un moment donné, notre cerveau, il a des zones qui sont actives et des zones qui sont moins actives. Et si on prend en photo, on est capable de savoir, bah c'est d'ailleurs ce qu'on fait quand on fait des IRM, c'est savoir ce qui fonctionne et où ça fonctionne, donc dans quelle zone du cerveau on peut voir de l'activité. Et donc on a une photographie, un ensemble d'activations qu'on est capable de marquer. Et ces activations, elles montrent toutes les modalités qui ont été traitées et à quoi elles correspondent. Donc là, voilà, j'ai un état d'activation particulier pour le poisson à la sauce ciboulette. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'une fois que notre cerveau il a compris et appris quelle modalité correspondait à quel souvenir et quelles traces ces traitements ont induit à l'intérieur du cerveau, eh ben, il va, à un moment donné, devoir récupérer cette information, parce que 10 ans plus tard, moi, j'interagis avec le monde, je cuisine du poisson, une sauce à la ciboulette, et je suis projeté 10 ans en arrière. Ce qui se passe, c'est que mon cerveau il va traiter l'information, et puis il va très rapidement comprendre que cette information, il l'a déjà traitée il y a 10 ans, alors il est efficace, et puis il est aussi un peu feignant parfois, il va simplement récupérer l'information du passé et la réutiliser au moment présent. Et pour faire ce travail d'association, la deuxième partie du modèle propose qu'il y a donc le processus d'intégration. C'est très simple, en fait, au tout départ, on a notre cerveau, et puis on a toutes les modalités sensorielles. À un moment donné, il faut que tout ça, ça forme un ensemble cohérent, un ensemble uni et harmonieux. Et bien ça, c'est le processus d'intégration. Voilà, donc ça, c'est l'activation pour le poisson sauce ciboulette. Alors, un petit exemple. On ne voit pas très bien, mais là, il y a une carte de la France. Carte de la France, en fait, c'est la carte de mon souvenir. Au départ, ben, je n'ai pas de carte de la France puisque je ne me souviens pas, je n'ai jamais interagi avec le monde, je n'ai jamais mangé le poisson, je n'ai rien dans la tête. Si j'ai plein de trucs dans la tête, mais en tout cas, je n'ai pas ça. À un moment, je vais interagir avec le monde et puis je vais goûter ce plat de ma grand-mère. Et puis donc, je vais avoir des saveurs qui vont être traitées. Puis je vais sentir, je vais voir, je vais entendre. Je vais ressentir aussi, parce que c'est plutôt des bons souvenirs, donc c'est quelque chose qui va me faire vibrer à l'intérieur. Et mon cerveau, parce qu'il fait de l'intégration, il va associer la trace de la saveur avec l'émotion positive. Et puis il va faire ça pour toutes les modalités qui ont été traitées au moment où j'aurai fabriqué le premier souvenir. Et donc petit à petit, vont se créer des routes, des traces, entre les différentes modalités, pour constituer ce souvenir. Ce processus d'intégration, il est permis par une structure qui est magique à l'intérieur du cerveau, ça s'appelle l'hippocampe. C'est la structure en rouge, là, qui bouge. C'est vraiment à l'intérieur du cerveau, c'est quelque chose qui est très profond Et c'est une zone qui est particulièrement altérée quand on développe une maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ont aussi des problèmes d'association, beaucoup de confusion. Ils mélangent les événements, ils sont un peu perdus. Ce qui va se passer ensuite, c'est que 10 ans plus tard, moi je vais manger ce plat, et puis du coup je vais retraiter les choses, et donc mon cerveau il va simplement réemprunter les chemins qu'il a empruntés précédemment. Et donc au présent, ce que je vais faire, c'est réutiliser, reconstruire mon souvenir passé. Bon alors ça, quand ça fonctionne, c'est super, tout va bien. Des fois ça fonctionne moins bien, c'est pas trop grave. C'est souvent pas trop grave, quand on prend un petit peu de l'âge, ce qui se passe c'est que notre cerveau il est un peu moins efficace, c'est pas grave, c'est attendu et c'est normal. On peut faire un peu des exercices si on veut s'entraîner. Mais ce qui se passe globalement c'est que les traces elles sont un peu plus sinueuses. Donc on peut les récupérer, on peut réaccéder à notre souvenir, c'est juste un peu plus compliqué. Là où c'est vraiment beaucoup plus compliqué, c'est quand on a une maladie, comme une maladie d'Alzheimer par exemple, où là non seulement le cerveau il est un peu plus fragile, mais ce qu'il va faire aussi c'est tout simplement saboter les traces. Ce qui se passe c'est qu'il va couper les routes. Ça c'est un gros problème, puisque si j'ai un souvenir avec différentes associations multimodales et que j'ai besoin d'accéder à ce souvenir mais que les chemins que j'ai besoin d'emprunter ne sont pas empruntables, je perds petit à petit des bouts de mon souvenir, et puis à force, j'ai plus de souvenirs. Évidemment, c'est un gros problème de perdre ses souvenirs, mais dans la vie quotidienne, c'est tout aussi problématique, puisque évidemment, pour diverses tâches du quotidien, par exemple sortir les poubelles, on a besoin de se souvenir qu'il faut les sortir ou qu'on ne les a pas encore sortis. Pour cuisiner ou pour manger, il faut se souvenir qu'on n'a pas encore mangé ou que c'est bientôt l'heure de manger. Et puis pareil pour les médicaments, pour suivre un traitement, pour être assidu, il faut se souvenir qu'il faut prendre son médicament, quand il faut le prendre, quelle quantité il faut prendre, est-ce qu'on l'a déjà fait, est-ce qu'il faudra le faire plus tard. Si on perd nos souvenirs, tout ça, on ne peut plus le faire. Bon alors, moi j'ai trouvé la solution. On a des traces. Si les traces, elles sont menacées, il suffit d'en faire d'autres. Aussi simple que ça. Alors, pour faire ça, évidemment, on est obligé d'emprunter des chemins un peu plus scientifiques. Je ne suis pas là juste pour vous promettre que je vais guérir la maladie d'Alzheimer. Je suis là parce que je suis en train de conduire des études pour essayer d'améliorer un peu les choses. Je ne vais pas révolutionner le monde, mais j'essaye de contribuer un petit peu. Et pour faire ça, on sait que quand on a une maladie d'Alzheimer, même s'il y a plusieurs choses qui dysfonctionnent, il y a aussi des choses qui ne dysfonctionnent pas et sur lesquelles du coup, on peut s'appuyer. Sur lesquels on peut soutenir de nouveaux apprentissages ou des apprentissages encore actuels pour qu'ils durent un peu plus longtemps et pour permettre à la personne de moins perdre ses souvenirs. Et donc, moins perdre de souvenirs, ça veut dire moins perdre son indépendance. L'une des solutions, c'est d'utiliser le corps, parce qu'on sait que quand on mobilise le corps, on vient apporter une modalité supplémentaire. Donc, ce n'est pas seulement le cerveau qui apprend, c'est aussi le corps. Et donc, on a deux moyens d'apprendre. S'il y en a un qui déconne un petit peu, c'est pas grave, il y en a un autre. Voilà, donc ça par exemple c'est des vidéos de mon collègue avec qui on a travaillé cette année. C'est des vidéos qui sont présentées pour essayer de faire réapprendre aux personnes ces gestes du quotidien. Par exemple se laver les mains, couper du pain, prendre ses médicaments. Voilà. Une autre solution c'est aussi d'utiliser un support musical. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la musique ça suscite des émotions. Les émotions, elles sont marquées dans le corps. Accélération du rythme cardiaque, on peut parfois aussi ressentir des choses un peu plus profondément, une boule dans le ventre ou ce genre de choses, parce qu'on vit la musique. Si on vit la musique, alors notre corps il est mobilisé. Si notre corps est mobilisé, ça nous fait une entrée supplémentaire. Là aussi, si le cerveau ne peut pas apprendre, c'est pas grave, le corps va le faire. Pour faire ça, je travaille avec une entreprise, donc Linkia, on en a un peu parlé, qui fabrique des tablettes en fait, des agendas numériques, mais puis aussi des tablettes de téléassistance, de rappel du quotidien. Et en fait, le but, c'est d'apprendre comment on peut améliorer le quotidien des personnes avec, donc, moi, les études que je suis en train de conduire, puis en tirer des conclusions profitables à toutes les personnes qui pourraient tirer profit de ces découvertes, les intégrer à la tablette pour pouvoir faire un entraînement durable quotidien et pouvoir bénéficier du coup d'un apprentissage récurrent, parce qu'on sait que la récurrence, évidemment, ça va améliorer, en tout cas ça va augmenter la probabilité d'un effet positif. Alors, on voit pas très bien la phrase, mais c'est ma phrase de conclusion. Aujourd'hui, on est tous là, tous et toutes, on est réunis pour en apprendre un peu plus sur la maladie d'Alzheimer. Et j'espère qu'on va ensemble pouvoir collaborer et nous battre pour mettre Alzheimer KO.
Merci beaucoup. Merci. C'était très intéressant. Si vous avez des questions à poser à David Boubarel.
Vous nous avez bien montré comment construire un petit peu son souvenir, mais quid de l'imagination ? Elle existe quand même.
Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, en fait, pendant qu'on imagine ou qu'on a des images mentales, tout ça, c'est aussi des fragments de souvenirs qui sont utilisables. Et on sait, par exemple, certains chercheurs, chercheuses ont travaillé sur ce qu'on appelle l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, c'est notre capacité à nous imaginer en train de réaliser quelque chose. Et bien, en fait, quand on est dans un processus d'imagination, on sollicite les mêmes zones de notre cerveau que quand on est réellement en train de faire. L'imagination, elle est fabriquée, mais tout ce qui est dans notre cerveau, globalement, se fabrique. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que l'imagerie mentale, elle est aussi très utilisée dans des processus de récupération. Par exemple, voilà, beaucoup de sportifs qui sont blessés, quand ils sont sur leur lit d'hôpital, ils s'imaginent déjà en train de faire les gestes qu'ils vont être amenés à faire pendant leur rééducation avec les kinés. Et on sait que quand ils font ça de façon assidue, ils récupèrent plus vite et mieux que s'ils ne le font pas, par rapport donc à des personnes qui ne le font pas. Donc l'imagination, l'imagerie mentale, ça peut constituer un entraînement en soi qu'on pourrait faire chez soi, au quotidien, pour essayer de travailler un peu ses souvenirs et travailler les actions du quotidien qui sont utiles à notre autonomie.
Merci beaucoup. On a encore une question. Madame, alors juste... Ah, pardon.
Oui, au niveau des personnes qui sont Alzheimer, qui ne peuvent pas vous reconnaître, est-ce que, par exemple, par vos gestes, votre odeur, la façon dont on leur parle, elles reconnaissent?
Bah là, on touche un petit peu à la notion de multimodalité que j'ai pu aborder. Oui, en fait, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que si certaines informations ne sont pas accessibles, on passe par des chemins détournés pour pouvoir récupérer tout ou partie. Ce n'est pas toujours efficace à 100%, mais ça existe, alors pas que dans la maladie d'Alzheimer, hein, mais dans plusieurs pathologies où on perd un peu certains accès à nos souvenirs. On peut passer par des chemins détournés, parfois des odeurs vont nous évoquer une personne, parfois des musiques, parfois un plat particulier, et ça peut susciter une vague un peu intense en nous qui peut nous permettre d'accéder aux souvenirs. C'est pas vrai dans 100% des cas, mais on peut utiliser des... Voilà, par exemple, rien à voir, mais il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle prosopagnosiques, donc c'est des personnes qui ne reconnaissent pas les autres par rapport à leur visage. Bon, ben, en fait, ces personnes, elles peuvent quand même reconnaître les personnes qu'elles ont en face en utilisant, cette personne, elle a des lunettes bleues, donc personne lunettes bleues égale mon père. Bon, ben, sur le même modèle, ça fonctionne aussi avec des odeurs, ça fonctionne très bien avec des odeurs, notamment des odeurs de parfum.
Je ne sais pas si je n'ai peut-être pas très bien écouté, mais est-ce que vous avez parlé de l'INKIA et dans votre projet, est-ce que vous voulez développer un logiciel pour aider les personnes atteintes d'Alzheimer ?
En fait, il y a déjà un logiciel, mais pour l'instant, le logiciel, il est, basique. Il se contente de rappeler des rendez-vous importants ou des actions quotidiennes. Et nous, ce qu'on voudrait faire... Donc en lien avec mon travail, c'est d'améliorer ce logiciel déjà pour qu'il soit un peu plus ludique, tout simplement. Ça, c'est la partie captivante, parce que si c'est plus ludique, on a plus envie d'interagir avec la tablette. Si on interagit plus, on se donne plus de chances de profiter des effets de la tablette. Donc ça, c'est un premier point. Et après, l'idée, c'est de pouvoir concevoir justement des applications pratiques qui, au quotidien, vont... Là, le projet, c'est d'appeler la personne et de solliciter l'interaction. Donc la tablette, elle va appeler. Donc par exemple, Jean, j'ai quelque chose à te dire. Donc Jean s'approche et après, on lui propose un peu des exercices, des entraînements qu'il va pouvoir faire de façon régulière. Donc ça serait des entraînements, voilà, soit de l'imagerie mentale, soit des écoutes musicales, un travail d'association entre une musique et un souvenir, entre des gestes et un souvenir. Voilà, ce genre de choses.
Bien, merci beaucoup.